Salut les marques et les smarts et bienvenue dans le supplément SmackDown de Catch Up, votre podcast qui résume et analyse l'actualité du show bleu de la WWE, SmackDown Live. Je suis Giscal et je suis accompagné du revenant tout beau, tout frais de vacances, Yerem. Comment vas-tu Yerem?
Salut à toutes et à tous, ça va très bien, les vacances ça fait du bien.
Eh oui, allez, on va, c'est le chassé-croisé des vacances. Tu reviens, je vais pas tarder à partir, mais nous sommes là tous les deux au moment le plus important de la saison estivale de Catch, puisque c'est le Go Home Show de SmackDown juste avant SummerSlam. SummerSlam donc qui est qui est ce week-end, et nous allons analyser eh bien le SmackDown du 15 août, donc le dernier qui se passait au Dunkin' Donuts Center de Providence à Rhode Island. Et au menu ce soir, eh bien, les bookers n'aiment pas l'Inde, les bookers n'aiment pas Becky Lynch, les bookers n'aiment pas le Baron, et les bookers n'aiment pas garder des choses en stock pour le plus gros pay-per-view de l'été. Mais heureusement, il y a Tyler Breeze et Fandango. Donc on va regarder tout ça ensemble IRM. Mais oui, les bookers n'aimaient pas grand chose ce soir. Et à commencer par un des segments qui moi personnellement m'a. Je pense que ce sera dans mon top 3 des segments qui m'ont mis le plus mal à l'aise. C'était le segment d'intro de cette semaine, puisque nous avions Jinder Mahal introduit. Présenté par parce que j'ai un petit écho là.
Oui oui, non mais c'est ma faute. Je voilà, j'appuie sur les boutons à gauche.
Jinder présenté par les Singh Brothers donc dans son entrée caractéristique. Jinder qui donc vient célébrer le jour d'indépendance de l'Inde, hein. On se souvient le 4 juillet, c'était pas si longtemps pour les États-Unis, on avait eu une grande fête à grands coups de bannières étoilées et des USA. Cette semaine c'est pour l'Inde, Jinder Mahal qui vient nous dire que c'est la journée de l'indépendance, Independence Day, et donc c'est une raison de célébrer. Donc c'est Mahal qui est fier de son peuple, qui est fier, donc qui a prévu une petite fête et une performance spéciale pour célébrer ce jour d'indépendance. Donc nous avons des super danseurs indiens traditionnels qui nous font un show exotique, mais somme toute assez sympa. On a une dame, donc on ne sait pas si c'est de la famille de Jinder ou pas, mais qui vient nous chanter l'hymne national indien. Voilà, qui nous explique qu'il est très fier de son pays, que c'est grâce à lui si la WWE est devenue un phénomène global en Inde, patati patata. Et tout ceci se passe évidemment sous les sifflets du public,
c'était la tata de Jinder qui vient chanter.
Voilà. Puisque évidemment quand on met en situation un heel comme ça, il va se faire siffler, donc les chants USA ne tardent pas à retentir, et donc les bookers qui ont décidé de mettre Jinder en position de faire siffler son hymne national et les traditions de son pays, ce qui était j'imagine bien vu au niveau du marché indien. Nous avons eu un segment donc qui nous a prouvé encore une fois. Finalement, l'intelligence du public n'est peut-être pas forcément à remettre en... Parce que ils ont agi un petit peu comme des moutons sur ce coup-là, et ils ont fait ce qu'on leur a demandé de faire. Hein. Moi, je les mettrais plus pour les bookers, cette faute, mais bon, bref. Et donc, on enchaîne, et puis là, c'est Nakamura qui arrive, parce que forcément, USA, donc voilà, le héros japonais qui arrive... Pour sauver l'Amérique du tyran indien. Et Nakamura qui évidemment se fend d'une promo d'une éloquence rare une nouvelle fois, hein, et qui nous dit que ce dimanche en Amérique à SummerSlam, c'est le jour où Jinder Mahal va perdre le titre à moi, avec un sourire un peu bizarre. Au moins il a enlevé son protège-dents, c'est déjà ça. Et c'est la fin de ce segment d'ouverture un peu bizarre. Yerem, qu'as-tu pensé de tout ça?
Ah ouais, la pauvre tata de Jinder, là, je suis sûr, en plus, elle dirige un orphelinat en Inde et elle se fait bouer.
Huer.
Ouais. C'était un petit peu comme une promo Un peu sur le fil, hein. C'est un jeu d'équilibriste entre l'Inde versus l'US, et puis c'est un Japonais qui vient
Ouais.
sauver l'honneur des États-Unis, et puis en plus Jinder qui en place, Nakamura qui en place une sur la guerre au Japon. Enfin,
Ouais,
ici aussi
non mais.
l'anniversaire de, enfin toi, de, je sais plus qu'est-ce qu'on célèbre.
Je sais plus, ouais, non.
Voilà,
Je saurais même plus dire, c'est pas bien, mais
c'est le
bon,
jour
je
où on
sais
s'est
plus.
pris une bombe nucléaire sur la tête. Enfin, bouffon, ok. Donc, bon, toujours touchy, hein, façon, clairement. Là, on est dans une situation totalement étrange où tout est fait pour que Jinder soit le héros. Tout dépend si quand tu es devant ta télé, t'es au fin fond du Massachusetts ou alors en Inde, quoi. Donc,
Ouais.
c'est assez étrange, alors d'autant plus que nous, bah, on est ni l'un ni l'autre, donc on regarde ça
Ouais,
avec.
c'est aussi un peu
Je
ça.
pense que là, ça marchera jamais avec nous, enfin, avec nous, spectateurs français, ce genre de promotion. Donc voilà. Alors après, difficile, hein, évidemment, Jinder versus Nakamura, les promos, on avait déjà peur. Bon, malgré tout, ils sont pas trop mal débrouillés dans leur exercice, Jinder est vraiment à l'aise, si je puis dire, même si ses promos n'évoluent pas réellement. Nakamura, il a fait ce qu'il a pu, mais il était assez. Ça allait. C'est le mieux que je puisse dire, ça allait.
Ouais.
Mais bon, moi je suis vraiment toujours pas convaincu. Enfin, je suis pas convaincu de ce match, de cette affiche, en fait.
Ouais, mais c'est un peu tard, hein.
Mais
C'est dans
voilà, c'est
quatre,
trop
c'est dans
tard. Donc
3 jours,
en
hein.
fait, maintenant, il y a plus qu'à observer. Je serai convaincu. Enfin, convaincu. J'attends le résultat vraiment et j'attends vraiment qu'on passe à autre chose. Donc rien de plus en moins à ajouter. L'intérêt de cet épisode, heureusement, ne résidait pas en cette introduction.
Non, 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 on verra qu'il y a eu plein d'autres choses en effet, mais ouais, c'est typiquement le genre de segment qui ouais, ne peut pas fonctionner sur nous, mais toujours est-il que même sans fonctionner sur nous, c'est moi j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce que en fait on met le public en position de siffler un acte qui est somme toute assez sympa quoi de venir bon, évidemment, le catch, quand tu viens à un show de catch, t'es pas là pour regarder un spectacle de danse et un hymne national, mais c'est toujours bizarre de faire huer ce genre de choses, alors que il pourrait nous faire un truc, oui, je vous emmerde, l'un des plus forts, patati patata et tout, mais bon,
Ouais.
pas, ça a
Nous
toujours un peu
montrer ce qui
dérangeant.
est. Ouais, peut-être nous montrer des choses moches qui viennent d'Inde plutôt que nous montrer des
Oui.
belles choses, quoi. Parce que là, tu voyais en
Ouais.
plus les danseurs
Ouais, c'était
qui.
cool, moi, j'ai
Ils
trouvé
avaient
ça
les yeux à
sympa.
regarder le public. Je suis pas sûr que tous comprenaient vraiment ce qui se passait, toi. Je sais pas
Ouais.
si. Toi,
T'en
pour.
avais qui étaient vraiment contents de faire leur petite danse et ils se faisaient siffler. Puis en plus, la caméra, bah, non, mais parce que, enfin, moi, j'ai trouvé vraiment ce segment horrible. Mais enfin, t'avais même les monteurs à la télé à WWE qui se focalisaient sur les vieux rednecks dans le public qui huaient, qui, avec les pouces en bas, limite, qui allaient faire des doigts d'honneur et tout pendant qu'il y avait l'hymne et tout. Enfin,
On
t'avais
les...
vraiment l'impression d'être dans un stade de foot après 5 bières,
Ouais, exactement.
un truc sale, quoi, vraiment. Donc, c'est glorifiant pour personne, j'ai pas trop compris le
Les
truc, mais bon.
doigts d'honneur, on les aura un peu plus tard dans la
On
soirée.
les verra un petit peu plus tard, on en reparlera en effet. On enchaîne avec bah, un match féminin. On sait que la scène féminine nous passionne en ce
Courez,
moment à
courez,
SmackDown.
fuyez,
Et
pauvre
donc,
fou.
c'est peut-être le moment, on va peut-être faire un encart, c'est une séquence. On va écouter si vous voulez vous éloigner un petit moment, vous pouvez enlever
Allez,
votre
comme les
casque.
spoilers alertes.
Ouais, donc c'est l'heure des filles. Naomi qui arrive avec son glow pour se mettre à la table des commentateurs, tandis que nous allons avoir cette semaine un match entre Natalia et Becky Lynch. Natalia, la challengeuse pour le titre de Naomi à SummerSlam contre Becky Lynch, celle qui était un petit peu aux abonnés absents depuis quelques semaines. Et bah, on va voir qu'elle aurait peut-être mieux fait d'y rester, puisque bah, après 7 minutes 30 d'un match que j'ai noté relativement plat, hein, avec une bon, Becky qui évidemment essaye d'attaquer le bras de Natalia en début de match, mais qui se fait assez vite contrer par la challengeuse, qui entame sa période de heat assez standard, Becky Lynch qui revient comme très souvent avec son exploder, des running forearms dans les coins, tentative de tomber de Becky Lynch pour deux, tentative de armbar qui est contrée par Natalia, succession de contres, Becky Lynch qui fait un enziguri, elle tente de monter sur la troisième corde, mais elle loupe sa descente de la cuisse, et Natalia qui en profite pour caler son sharpshooter, et la bonne face vaillante et adorée du public abandonne après, après donc 7 minutes de bataille acharnée dans un match à fort enjeu. Becky Lynch abandonne et nous enchaînons sur le segment post-match puisque Natalia, méchante qu'elle est, remet son sharpshooter. C'en est trop pour Naomi qui n'en peut plus et qui du coup enlève son casque et vient sauver Becky Lynch. C'est à ce moment-là que, pour bonne mesure, histoire de caler tout le monde, Carmella arrive à son tour et reste en haut de la rampe avec James Ellsworth pour nous rappeler que bien, c'est elle, Miss Money in the Bank, qu'elle a la mallette et qu'elle souhaite bonne chance à tout le monde. Écoute, avant de te laisser la parole sur tout ça, on va peut-être boucler ce qui s'est passé au niveau des filles. Bon, pas grand-chose de plus, un petit segment backstage un petit peu plus tard dans l'émission pour ceux que ça intéresse encore.
À toi, ça avait l'air de t'intéresser la semaine dernière.
Ouais, et non, non, c'était pas moi, c'était c'était l'amiral. Tamina qui du coup, se chamaille un petit peu avec Lana en backstage parce que Tamina n'a pas de match ce soir, elle est pas contente, alors que Lana, elle, elle a eu triple title shot à la suite. Et Lana qui alors là, elle lui dit « Non mais Tamina, tu n'es pas prête ». tu n'es pas prête, voyons, personne ne te remarque, personne n'a peur de toi. Donc, Lana, Tamina, tu devrais plutôt suivre mon leadership, mon commandement, et là, tu verras, les gens auront peur de toi. Je vais t'apprendre, comme j'ai fait avec Rousseff, à crush les gens, et je vais manipuler notre montée vers les sommets, et tu deviendras une force destructive. Inarrêtable. Voilà, pour ceux que ça intéresse, il y a eu donc un petit développement.
Ça pourrait être tellement bien, mais bon. mais ça ne l'est pas.
Alors, il y a les femmes cette semaine.
Alors oui, ouais, ça pourrait être tellement bien juste là. Cette histoire de Lana qui est effectivement en manager un peu comme elle faisait avec Rousseff. Mais bon, ça ne l'est pas. Alors, plusieurs choses, parce que effectivement, elles se sont toutes retrouvées une fois de plus un peu dans le même sac. On va commencer avec le match. Becky, bon bah voilà, hein, tu as mis suffisamment d'emphase sur le final de ce match. C'est catastrophique parce que c'est pas la première fois. Hein, on se souvient quand même qu'elle a eu un passage à vide Becky Lynch où justement elle tapait, elle abandonnait. Je me demande si c'était pas contre la même Natalia ou en tout cas elle avait une sale époque. C'était il y a un an à peu près, je pense, où elle abandonnait. Là, on se plaignait la dernière fois. En tout cas, moi, je me plaignais de son traitement, de son personnage qui est où les actes sont totalement incohérents avec le personnage qu'elle essayait de construire, de présenter. Là, une fois de plus, on sacrifie un babyface. En plus, le problème, c'est que, ou alors j'ai mal suivi, mais il n'y a pas vraiment eu de travail. Vraiment productif, efficace, qui a été fait de la part de Natalia pour amener cet abandon sur la prise de soumission.
Non, il n'y avait pas de travail sur la jambe, il n'y avait pas spécialement. C'est juste, elle a loupé sa descente de la cuisse, du coup, elle a mal à la cuisse et hop. Là,
mais bon, ouais. Tu l'as dit, le match a duré 7 minutes, donc si au bout de 5 minutes, Becky Lynch n'est pas capable de s'extirper d'un sharpshooter de Natalia qui n'est une prise de soumission létale dans laquelle tu ne peux plus t'en sortir une fois que tu es prise, elle était pas loin des cordes. C'est difficile à accepter. On sait que beaucoup de choses vont être reset probablement après SummerSlam, mais je déteste ces moments-là où justement dans les road to vers les gros pay-per-view où on sacrifie ceux qui n'ont pas de programme. Pour construire les affiches, on aurait pu très bien trouver une autre fin ou avec quelqu'un d'autre. Ouais. Là, c'est difficile pour Becky Lynch. Donc, moi, je suis vraiment pas content de. Il fallait que Natalia paraisse forte, ça. Ok, d'accord. Hein. Mais au dépend de Becky Lynch ainsi, là, c'est assez navrant.
Ouais. Écoute, ouais, je suis un peu d'accord, mais bon, du coup, le problème, c'est qu'il n'y a pas trop d'autres faces pour faire la serpillière, parce que l'autre, c'est Charlotte, on va pas faire perdre Charlotte, donc du coup, c'était un peu compliqué, mais il y avait, en effet, je suis d'accord avec toi, plein d'autres choses à faire, on va pas énumérer tous les scénarios qu'ils auraient pu faire, on n'est pas obligé de faire taper Becky Lynch.
Juste un dernier mot sur... pardon, vas-y.
Vas-y, vas-y, non, non, je t'en
J'allais
prie.
passer sur Naomi, donc.
Oui, vas-y, 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 sur Nome.
Et surtout, bah voilà, l'affiche, c'est Natalia contre Naomi, et Naomi, catastrophique, hein, toujours catastrophique au micro.
Ouais.
Elle répondait gentiment à chaque question, ça elle sait faire, hein. Si on lui demande,
Ah
si on lui
oui.
pose une question, faut répondre par oui ou non, elle va répondre par oui ou par non, mais c'est tout, voilà. Après, elle rentre aussitôt la tête dans sa carapace, là, et c'est juste, c'est la cata, hein. Naomi, c'est pitoyable, je ne sais pas ce qu'ils ont prévu pour Summer Slam, mais en tout cas, que ça soit Natalia ou Naomi, celle qui ressortira avec la ceinture, si c'est une de ces deux-là, évidemment, repartira, n'est pas une très habile au micro. Donc, tout ça, c'est très inquiétant, vraiment très inquiétant.
Ouais, et puis c'est ouais, très inquiétant, c'est surtout ça, je pense, le mot, parce que autant bon bah la scène masculine, individuelle, bon bah voilà, on passera à une autre feud et ce sera, ça changera. Là, les filles, c'est vraiment inquiétant. Je sais pas dans comment quand est-ce qu'ils se sortiront de ce bourbier là, sorte de marasme, vraiment, c'est chaque semaine, c'est chiant et c'est de plus en plus chiant. Et ouais, tu te dis quand est-ce que ça va s'arrêter, parce que il n'y a pas vraiment de lumière au bout du tunnel là pour le moment,
Non,
donc
c'est juste
parce que
un
en
gros
plus
trou.
tu te dis Naomi, Natalia, tu dis bon à la limite, voilà, la celle qui gagnera SummerSlam partira vers d'autres trucs, mais ça veut dire que c'est soit Natalia qui est championne, soit Naomi qui continue, et bon bah on a vu ce que c'était, donc c'est pas très réjouissant tout ça, voilà. On va continuer avec un truc qui aurait pu pas être très réjouissant, mais qui finalement s'est pas trop mal passé. C'était un rematch cette semaine, un rematch Rusev qui a affronté Chad Gable encore une fois. Alors moi j'étais très inquiet quand j'ai vu ce match annoncé, parce que je trouvais que c'était une stupidité pas possible de remettre un match entre les deux complet après la très belle prestation de Chad Gable. Et ben finalement, ce qui s'est passé, c'est ce qui devait se passer. C'est la seule bonne chose peut-être qu'ils ont fait de l'émission, puisque Rousseff n'avait pas de temps à perdre cette semaine. Chad Gable, qui en une minute a eu le temps quand même de nous balancer encore un magnifique overhead belly to belly, démontrant encore une fois toute sa puissance et son dynamisme. Hein. Mais Rousseff, voilà, comme je disais, cette fois n'avait pas de temps à perdre cette semaine. Il a envoyé valser Chad Gable par-dessus la table des commentateurs, comme ne l'aurait pas renié Braun Strowman avec Roman Reigns. Et s'ensuit un beatdown avec une tentative là d'accolade sur la table des commentateurs. D'ailleurs, c'est pas donc double décompte à l'extérieur de l'arbitre. Donc nous n'aurons pas de vainqueur pour ce match. Mais Rousseff, par contre, qui entreprend de bien démolir Gable pour montrer que ça ne rigole pas. Il en a marre d'être pris pour un clown. Et il place son acolyte sur la table des commentateurs. Il va chercher un petit micro. Au moment où il allait commencer une petite promo au centre du ring, nous avons le fameux mime de l'internet RKO Out of Nowhere de Randy Orton, très bien filmé. Magnifique RKO, superbement bien vendu par Rousseff. Petite pause avec le sourire de Randy Orton sur les trois coins, quatre coins du ring. Et ça s'arrêtera là pour finalement une des seules séquences qui vend à peu près bien un match, pour, en tout cas à mon avis, pour ce dimanche. Qu'est-ce que tu as pensé de ça, Yann?
Bah écoute, alors, ils ont fait exactement ce qu'il fallait faire, tu l'as dit. Rusev, totalement destructeur, qu'on avait juste rien à battre du match, de ce deuxième match. Gable, du coup, qui s'en sort bien, parce qu'il évite une deuxième grosse défaite. En plus, lui au moins, il a toujours le theme song des American Alpha. Pas comme
Qui est
l'autre,
plutôt
là.
sympa,
Le
donc
fils
bon,
d'eux.
bah, le fils d'eux, hein?
Et puis bah ce magnifique RKO, alors plus même que le même.
Ah oui, là, extrêmement, extrêmement même,
C'est du
ouais.
méta même, parce que comme tu l'as dit, tout le monde le veut. En fait, c'est très fort parce que tout le monde crie Randy, Randy, parce qu'on attend qu'une chose. Et là, c'est tout l'art à la fois. C'est un travail entre Rousseff qui doit vraiment se le prendre, enfin le vendre
Il se le prend
quoi, qui
parfaitement,
se
hein.
prend parfaitement. Randy Orton qui doit réussir à se glisser de la façon la plus discrète possible jusqu'au milieu du ring. Et puis la réal quoi, les caméramans qui doivent pas se louper quoi. Donc C'est à chaque fois, enfin, c'est jouissif de le qu'il est c'est réussi aussi parfaitement.
Ouais,
Tu
c'est
vois ce que
ça
je veux
en
dire?
fait. C'est
Donc,
que tout le monde a envie de le voir et tout le monde est content, donc du coup
ça
ça
fait
fait
quand même un
plaisir.
paquet de temps qu'il l'ait fait, c'est RKO From Out
Ouais,
of
c'est ça, on s'en lasse pas.
Nowhere.
Ouais.
Et ouais, pour l'instant, ça va pas. Donc, ça a donné, enfin, ça m'a donné de l'intérêt quand même à ce match. La rivalité, non, parce qu'elle est inexistante, on en est qu'au début. Mais en tout cas, ce match qui sera peut-être un match de gala, enfin un one shot pour SummerSlam, ce qui avait l'air d'être ton avis, ou
Ouais, c'est mon avis. Ouais.
éventuellement donner lieu à une autre rivalité si vraiment les gars ont pas de programme pour eux et qu'il y a une bonne alchimie dans le ring, pourquoi pas. Mais en tout cas, ils ont réussi à vendre un match qui venait justement de Out of Nowhere. Donc c'est une belle
Ouais.
séquence.
C'est ça, voilà. C'était. Et puis c'est un modèle, on en reparlera encore une fois plus tard, mais là, pour le coup, Rousseff pourra donner des cours à un autre catcheur pour comment se prendre un truc complètement par derrière sans le teaser ou enfin en tout cas sans vendre la mèche à l'écran. On en
J'étais
reparlera, mais voilà,
tellement mal.
c'était parfaitement exécuté. Donc du coup, voilà, ça mange pas de pain, ça a pris 2 minutes dans l'émission, ça a fait plaisir au public et ça donne un petit peu envie de voir le match de dimanche. C'est tout ce qu'on demande à ces rivalités de mid-card. Donc on va dire que c'est du booking ABC plutôt bien réalisé. On va continuer et on va continuer avec la feu de masculine, on va dire individuelle de SmackDown. C'est AJ Styles et Kevin Owens. Et alors là, mon Dieu, encore une fois, j'ai eu très peur parce que quand j'ai vu le segment commencer, le segment était labellisé. Alors on a eu des petits encarts. AJ Styles va s'excuser auprès de Shane McMahon. C'est exactement ce que je redoutais la semaine dernière. J'ai dit, s'il vous plaît, nous prenez pas pour des enfants de 2 ans. Genre, on sait qu'il a pas fait exprès. Est-ce qu'il est vraiment obligé de s'excuser? Ils nous l'ont fait, évidemment. Ils nous l'ont fait. Donc, AJ Styles, eh bien, il arrive et donc il appelle Shane McMahon. Le public est très content. Il fait sa petite danse. Donc, tout le monde est très content de voir Shane qui a une superbe réaction d'ailleurs à Providence. Hein, il faut le souligner. Très belle pop qu'il ne manquera pas de souligner en remerciant le public.
Bah, il a un
Donc,
Airbnb là-bas, je crois, hein, donc.
il a un Airbnb là-bas. Ceci expliquerait cela. Et du coup, bah Shane qui. La voix de la raison, Dieu merci, Shane, Papa Shane qui explique au petit AJ Styles, au gentil, au gamin qui a fait une bêtise. Du coup, si tu veux t'excuser, il n'y a pas besoin, franchement. Tu sais, on m'a embauché pour ça, pour être sûr que si jamais les choses devenaient physiques entre vous, il y a quelqu'un qui puisse s'interposer physiquement et ne pas s'écrouler au moindre petit coup.
On m'a
Donc
engagé parce que je peux encaisser 5 rev bump.
voilà, c'est ça. Donc, écoute, le coup de pied était un accident. On a très bien compris. Donc, c'est pas la peine de s'excuser. Merci, Shane. Mais ça n'empêche pas que AJ Styles voulait quand même un petit peu remettre les choses au clair. Mais par contre, du coup, bah, il en profite. AJ Styles remet des petits. On retrouve des petits reflets de sa personnalité un petit peu. Comment dire, mais un peu imbu, un peu heel, quoi, des éclats de AJ Styles heel, puisqu'il dit, attends, écoute, par contre, on est d'accord que c'est pas parce que je t'ai mis un petit coup de pied, on est d'accord, j'ai pas fait exprès, que tu vas t'en servir dimanche pour me la mettre à l'envers encore une fois, comme tu sais si bien faire et tout. Et donc là, évidemment, Shane McMahon qui répète, attends, écoute, c'est un accident, c'était dans le feu du moment, mais par contre, attention, sache que si jamais tu mets, alors c'est un peu bizarre en anglais, hein, mais si tu poses tes mains sur moi, tu auras mes mains tout partout sur toi également ce dimanche. Traduction
Attention,
littérale,
si tu me
un
tapes,
peu chelou.
si tu me tapes, je te tripote.
Je te tripote, attention. Bon, donc on sent que la tension monte un petit peu entre les deux, bataille de coq. C'est à ce moment-là que Kevin Owens, qui, ça y est, Dieu
Le
merci,
sauveur.
a abandonné son titantron avec sa face, la face
Ah,
de
j'ai
l'Amérique.
pas remarqué.
Enfin, il a repris son titantron badass tout rouge là. Il arrive, donc Kevin Owens qui évidemment rigole de toute cette situation. Il voit ses deux rivaux entre guillemets, hein, se chamailler devant lui. Donc lui, bah, écoute, il met un peu d'eau sur le feu. Il dit non, non, un peu d'huile sur le feu, parce que de l'eau sur le feu, ce serait pas son rôle. Il met un peu d'huile sur le feu. Il dit non, non, il pense pas que la semaine dernière c'était un accident. Et par contre, alors lui, il monte sur le ring et en bon heel ridicule et délusionnel un peu, il fait par contre, Shane, j'espère que tu sais bien que si jamais je pose la main sur toi ce dimanche, ce sera évidemment complètement involontaire. Je respecte ton autorité et voilà, je veux pas que AJ Styles s'en serve pour se faire disqualifier comme le couard qu'il est. Et donc Kevin Owens qui va jusqu'à proposer de serrer la main en signe de bonne foi à Shane McMahon. Et Shane McMahon qui, une nouvelle fois, la voix de la raison, Papa Shane qui dit non mais écoute,
Papa Shane.
Papa Shane, non mais c'est pas à moi que tu dois serrer la main, c'est à AJ Styles. Si tu veux serrer la main à quelqu'un, je vois pas pourquoi tu serrerais la main à l'arbitre, c'est pas approprié. Donc et Kevin Owens qui bon, écoute, vas-y, il propose de serrer la main à AJ Styles. AJ Styles qui refuse, ça commence à se chauffer, ça se pousse comme la semaine dernière, ça se pousse, ça s'insulte. Shane qui se met entre les deux. Et là, évidemment, ce qui devait arriver arriva. Retour de bâton. Kevin Owens qui tente le super kick sur AJ Styles. Mais c'est le menton de Shane McMahon qui cueille la botte du Canadien. Et donc, bah voilà, un partout, balle au centre. Tout le monde a mis un coup de pied dans la tronche. Enfin, tout le monde a mis un coup dans la tronche du commissionneur. On se retrouvera dimanche pour régler tout ça dans un match qui s'annonce du coup houleux. Avec un arbitre qui va avoir un rôle manifestement prépondérant. Qu'est-ce que tu... J'ai été un petit peu long sur le descriptif, mais qu'est-ce que tu as pensé de tout ça?
Oui, bah écoute, je comprends que tu t'es donné tout ce temps pour décrire la situation, parce que la scène, parce que c'est vraiment un jeu de mind games, mais en plus il rajoute une surcouche un peu physique au cas où les gens ne comprennent vraiment pas. Ce qui est une des choses que je regrette, qu'on peut regretter, parce que c'est ce que tu en avais parlé, je crois, avec Ringside, il me semble. Ou c'était la Mirage, j'avoue que j'ai du mal à suivre. Mais qui présente le supplément SmackDown de ces dernières semaines? Enfin, tu vois-t-il, voilà, on avait dit que il fallait bien montrer aux gens qu'il y avait de la tension entre les trois et que cette tension-là, il fallait la montrer aussi physiquement. Donc avec un coup AJ qui frappe Shane, et puis cette fois-ci c'est KO. Bon voilà, 50-50. Pour moi, le jeu du mental suffisait. Il y avait suffisamment d'historique entre les trois. C'était plus intéressant. Après, alors, c'était quand même très mal joué. Là, AJ Styles et Shane McMahon étaient vraiment pas bien. Ils maîtrisaient
Ouais, au début, je suis
jusqu'à
d'accord.
l'arrivée de Kevin Owens. C'était difficile. Shane McMahon était en sueur, quoi, il en
Putain,
pouvait
ouais, c'est
plus.
incroyable.
Tu voyais le robinet, comme s'il avait un robinet au-dessus de la tête, c'était gênant.
C'était impressionnant.
À un moment, tu vois, il s'arrête, il regarde autour de lui,
Ouais, alors par contre, je pense qu'il y a eu un
il y
petit
a un petit
loupé dans
dé,
le
un petit
lancement de la
loupé,
musique
voilà.
de Kevin Owens.
C'est ça, donc ça n'aidait pas. Voilà, oh là là là. De toute façon, Shane, voilà, il est habitué, hein, c'est un homme moite. Il est connu pour ça, mais là, c'était très difficile. Moi, ça, j'étais pas bien, quoi. Heureusement, Kevin Owens arrive et lui, il maîtrise vraiment mieux, hein, ces segments-là.
Il sait faire ça.
Il sait faire. Comme tu
Jouer
l'as.
au petit
Ah, ouais.
con là comme ça. Ouais.
Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le fait que qui vraiment qui s'attaque plus à AJ Styles qu'à Shane McMahon, en fait, notamment qu'on lui dit, ouais, comme tu l'as dit, qu'il va pas utiliser la DQ pour repartir avec la ceinture.
Oui, ça c'est intelligent de le souligner en
C'est
effet.
ça, alors que AJ Styles, lui, se focalise vraiment sur Shane McMahon. Et du coup, la dynamique est assez étrange parce qu'on nous parle beaucoup de une éventuelle rivalité entre Kevin Owens et Shane McMahon. Mais là, à ce moment-là, c'est vraiment AJ Styles qui reprend un petit peu son écharpe là, de heel, comme tu l'as dit, et qui vraiment se focalise sur Shane McMahon. Alors, effectivement, ils ont un historique tous les deux, qui est très fort, hein, plus que Kevin Owens. Pour autant, voilà, je dirais celui qui est vraiment qui en fait des tonnes, qui en fait trop, quoi, c'est AJ Styles. Donc on va voir ce que ça va donner. Clairement, bon, voilà, on nous annonce la couleur, ça c'est sûr. Hein, ça, comme tu l'as dit, là, ça va. C'est pas un match qui va se passer.
Non, il y aura, ça va être avec de l'overbooking,
Donc voilà. Après,
il y aura tout ce qu'il faut.
c'est une rivalité que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il s'en sort pas mal sur cette stipulation, même si j'en aurais imaginé une autre, mais elle est plutôt bonne. Maintenant, c'est vraiment dans l'exécution où ça pêche un petit peu, notamment à cause de l'acting, hein, et des promos, hein, de Shane et de AJ qui sont un petit peu un cran en dessous. Ce qui est un peu regrettable qu'on veut faire du mind game.
Ouais.
Mais voilà, c'est
Face
l'arrivée.
au ring, quoi.
Ouais, voilà, ça va, faut que ça se passe dans le ring, et là ils ont intérêt à être impeccables sur le ring, à nous sortir le grand jeu, pour que cette rivalité vraiment continue d'être aussi bonne qu'elle doit l'être, quoi.
Je suis d'accord. Non, non, mais en effet, de toute façon, ils sont jamais meilleurs que dans le ring, eux. Mais bon, écoute, en tout cas, maintenant, avec moi, ça a plutôt bien fonctionné, parce que c'est vrai qu'avec tout le bordel qu'il y a autour de l'arbitre, bah, je dois t'avouer que je suis bien embêté au moment de pronostiquer ce match, parce que, bah, il joue sur le fait que ça peut aller dans les deux sens. Shane McMahon, il a des intérêts un peu des deux côtés. Les deux ont un passé. Ces deux mecs très fourbes dans le ring qui vont s'affronter, qui savent jouer avec toutes les ficelles du ring et du catch de manière générale. Donc ça va être marrant de voir ce qu'ils vont être capables, je trouve, de nous sortir en termes d'innovation, de ref bump et de filouterie dans un match comme ça. Je trouve que, enfin, en tout cas, moi, j'attends ce match-là aussi un petit peu pour cet aspect-là, plus que, enfin, avec le côté in-ring. Donc je trouvais que ils ont plutôt bien mis l'accent là-dessus, mais après, moi, oui, tu l'as dit, c'est pas très bien joué. Puis il y a ce côté, heureusement qu'ils ont évité certains écueils, mais dans leur segment, un petit peu, on a vraiment l'impression qu'ils prennent le téléspectateur par la main pour tout bien expliquer, genre, oui, voilà, non,
Ouais, bah ça en
bon.
fait, c'est ce que je pensais au début, et je me dis, toi, rien que le fait de faire un segment, les excuses de AJ. Alors, au début, je me suis dit, putain,
Ah
merde,
ouais, moi j'ai eu peur.
c'est pourquoi, enfin, ils en fait des tonnes, etc. Après, si c'est aussi si c'est AJ qui l'a réclamé, ça peut être une stratégie
Oui,
pour
mais
vraiment, lui, enfin, on est toujours dans ce jeu de ce mind game là. Il
peut-être.
dit, voilà, je vais pouvoir peut-être utiliser ça pour rentrer un peu dans la tête de Shane, mais au final, ce qu'il fait, c'est plutôt de l'énerver. Donc,
J'ai l'impression, oui, ça
quel
se
est
retourne un
le.
peu contre lui.
Oui, donc
Ouais.
c'est pas très bon, il aurait mieux fait
Ouais.
de rester dans son fauteuil.
C'est ça. Bon, peut-être que j'étais un peu mal luné sur ce SmackDown, alors je sais pas, mais ouais, c'est vrai, c'est possible.
Non, mais ils sont clairement, c'est pas hyper bien exécuté, ça c'est certain.
On va passer aux équipes, les
Wouhou!
Usos et le New Day qui nous régale depuis des semaines et qui vont continuer et qui alors par contre voilà alors là quand je disais dans le menu en début d'émission que les bookers bah, n'aimaient pas garder des choses pour le plus grand pay-per-view de l'été et ben ils ont déjà commencé, si j'ai bien compris, à Raw, puisqu'à l'heure où nous enregistrons, je n'ai pas encore écouté le podcast, mais alors à Raw, ils nous ont donné des matchs de SummerSlam sur un plateau. Et ben, ils ont continué à SmackDown, puisque nous avons ce soir les Usos contre les champions, le New Day. Donc c'est un match qui ne sera pas pour le titre, mais c'est bien un 2 contre 2, puisque les Usos sont allés réclamer en milieu d'émission au GM Daniel Bryan. Ils sont allés réclamer. À affronter spécifiquement Kofi Kingston et Xavier Woods, qui ont été les deux qui, la semaine dernière, les ont agressés par derrière pendant que Big E faisait son entrée sur la rampe. Donc ils les ont et donc ils ont demandé spécifiquement à Kofi et Woods, tout en d'ailleurs Daniel Bryan qui a précisé à ce moment-là qu'ils affronteront, si j'ai bien suivi, Big E et Xavier Woods à SummerSlam. On a eu le droit pendant ce petit segment backstage d'ailleurs à un petit moment qui moi personnellement m'a fait hurler de rire à Daniel Bryan qui joue son papa un peu gênant genre il essaye de faire son rappeur là il dit au fait ah les Usos cool que vous soyez là vous venez pour me prendre dans votre prochain rap battle j'ai travaillé mes beats mon flow et tout il commence à leur
Ouais.
sortir des trucs
Mais
c'est
en fait,
assez
c'était un
marrant.
petit morceau de Talking Smack dans SmackDown, tout simplement. C'est ce qu'il faisait à
Voilà,
Talking
c'est ça,
Smack, hein.
exactement. C'est un petit extrait de.
Maintenant
C'est
qu'il
le
n'y a
Daniel
plus.
Bryan ridicule mais drôle qu'il fait à Talking Smack, exactement. Et puis alors, les Usos, du coup, Daniel Bryan accepte le match pour ce soir. Et les Usos qui proposent un double fist bump, un peu à la thug gangsta style. Et alors là, Daniel Bryan qui pose les mains un peu comme on ferait dans un pierre-feuille-ciseau des feuilles sur la pierre, là. Voilà, il pose ses mains sur les deux. Il
Malaise.
fait, ouais, boum, ouais, trop cool, les mecs et tout. Gros malaise. D'ailleurs, on voit Jey Uso qui manque d'exploser de rire, qui préfère se barrer d'ailleurs parce qu'il est mort de rire. Et donc, bon, petit segment assez drôle. Et on va continuer bah, sur ce match qui, bah, aurait eu toute sa place à SummerSlam, mais non, ils ont décidé de nous en faire un 3 jours avant. Match relativement court, puisque bon, on a un début assez tonitruant de Kofi Kingston qui commence directement avec ses coups de pied et ce style qu'ils ont quand ils sont en équipe, Kofi Kingston et Xavier Woods, avec beaucoup de quick tags, beaucoup de changements très très rapides, où c'est assez drôle de les voir se taguer toutes les 2 secondes et faire des descentes du coude, des descentes de la cuisse, des coups de pied et tout en boucle. C'est assez sympa, le public marche bien. La baston qui sort un petit peu du ring. Et les heels qui profitent de la coupure publicitaire tandis que tous les acteurs sont hors du ring pour reprendre le contrôle. On revient c'est donc Jimmy et Jay qui gardent Kofi Kingston au sol à leur tour cette fois une succession de tags. Kofi Kingston qui finit par sortir une belly to back suplex et pour se sortir de cette mauvaise situation et qui fait le hot tag sur Xavier Woods. Xavier Woods qui sort toute sa panoplie de hot tag, c'est un rôle qu'on lui connaît moins mais qui se découvre là depuis quelques semaines maintenant dans cette feud. Donc c'est Xavier Woods qui mène le comeback. Enzugiri sur les frangins, Kofi Kingston qui fait un tag sur son partenaire mais qui n'a pas été vu par les frangins Ousso, double super kick pour un tombé de deux qui était pas mal. Ensuite contre du Midnight Hour, le finisher du New Day par deux là du haut de la troisième corde. Mais les Ousso qui en profitent pour sortir Xavier Woods du ring, qui attaque le genou de Kofi Kingston, double super kick à leur tour, qui cette fois est bien plus efficace puisqu'il prendra le tombé de 3. Et donc nous avons les champions battus clean par les challengers à 3 jours du pay-per-view en 7 minutes sur un match dynamique, sympa, mais on se demande ce que ça foutait là. Est-ce que t'as compris toi, Yann?
À part que ils savent pas quoi, enfin non, non, j'ai pas compris parce que alors c'est terrible, c'est vraiment un problème qu'ils doivent résoudre. C'est le fait de balancer les matchs comme ça avant les pay-per-view, déjà qu'ils le font après aussi, donc bientôt on aura 3 fois le même match dans le Go Home Show, le pay-per-view et après, donc non, ça c'est complètement stupide, sauf cas exceptionnel. Là, à la limite, les Ouzo voulaient visiblement vraiment se venger et ont réclamé, alors je ne sais plus si le match est déjà prévu ou pas.
Ah oui, il était booké déjà. Bon.
Ce qui est débile en fait, c'est que le match soit déjà prévu. À la limite, s'ils avaient juste voulu un match, juste pour se venger de l'attaque et on va dire les détruire avant le vrai match pour la ceinture, ça peut être une stratégie, toi. On dit ils nous ont attaqué, donne-nous un match. Ah ouais, mais ce sera pas pour la ceinture c'est dimanche. Oh d'accord, on s'en fout, de toute façon on veut juste leur casser la gueule. Bon d'accord, allez-y. Et ils leur cassent la gueule en se disant comme ça ils arriveront sur une jambe dans 3 jours. Mais ils sont pas allés jusqu'au bout de ça et ils en avaient pas forcément besoin parce que enfin le match en plus qu'ils ont proposé était vraiment super, c'était hyper dynamique, c'est pour moi le match de la soirée. J'étais vraiment à fond derrière ce match, il y a un dynamisme qui est assez dingue. Alors en plus par contre, ils ont insisté beaucoup sur la Freebird Rules. Je sais pas si tu as noté ça. Mais
si, si, ouais.
Notamment le fait justement qu'ils faisaient tourner les effectifs dans le petit carton d'intro quand les catcheurs entrent sur le ring, ils en faisaient mention également et je crois qu'au commentaire ils en ont reparlé aussi.
Alors, c'est vrai qu'ils ont pas mal mis l'emphase.
Est-ce quelque chose à prendre en compte en se disant tiens la Freebird Rule, c'est vrai que ils sont toujours à 3 contre 2, ça les met vachement en avantage et ça permet de tourner etc. Est-ce qu'à un moment donné, plus tard, après SummerSlam, cette Freebird Rules va avoir un rôle à jouer, soit pour démanteler le New Day, ou alors, toi, je sais pas, j'aimerais...
Je sais pas, ce serait intéressant qu'ils exploitent un peu... En tout cas, qu'il y ait quelqu'un qui en fasse mention à l'écran. Je sais pas si ça a déjà été fait, en effet, de dire que c'est vrai que le New Day, qui est l'équipe Babyface par excellence, est quand même... Par essence, est vachement avantagé
C'est ça.
du fait qu'ils soient trois et qu'ils peuvent tourner et qu'il y a toujours un mec ringside avec eux. Du coup, c'est vrai, ce serait intéressant de voir
Ouais.
un petit peu Daniel Bryan peut-être mettre les pieds dans le plat là-dessus pour un éventuel quatrième numéro entre les deux équipes. Mais ce qui est très dommage, c'est comme tu l'as dit, c'est encore une fois de galvauder une
Ah oui, il y a
affiche.
ça.
Et c'est dommage parce qu'il faisait un bon boulot avec cette rivalité. Il y a eu deux très gros matchs, coup, sur deux pay-per-view entre ces deux équipes, puisqu'il y a eu Money in the Bank et Battleground, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, c'était une feuille de réservée au pay-per-view. On allait avoir un troisième numéro à SummerSlam, qui est quand même pas rien. Et là, finalement, il nous le gâche un petit peu, ce troisième match, en nous le donnant gratos sur un match très quelconque à SmackDown. Et en plus, derrière, ils viennent nous annoncer que le match sera en pré-show à SummerSlam. Je sais pas si
Ah
t'as vu.
merde, non, non, bah non, putain, la cata.
Mais le match sera en pré-show.
Ah, chier.
Et donc, du coup, un petit peu comme finalement le coup de Tozawa, pour ceux qui n'ont pas encore vu Raw, alors on parlera pas du match, mais Tozawa et Neville se sont affrontés pour la ceinture. Et dans la foulée, ils ont été relégués au pré-show à SummerSlam également.
Ah ouais.
Donc on est vraiment. En fait, je crois qu'ils se sont peut-être rendu compte qu'il y avait trop de matchs parce qu'on la récapitulera la carte à la fin du podcast, mais il y a énormément de matchs à SummerSlam. Et en fait, ils sont en train de se dire, ah ouais, non, on n'a pas le temps de tout faire. Et donc là, en fait, cette semaine, j'ai l'impression qu'ils ont donné beaucoup de choses. Ils ont donné beaucoup de choses parce qu'ils peuvent pas, il n'y a pas la place à
Ouais.
SummerSlam.
Non, mais je pense qu'effectivement, t'as raison. T'as carrément raison. Ça rentre carrément en compte. C'est certain. Hein, donc.
Sauf que c'est dommage parce que cette feud avait été
Ah
plutôt
oui.
bien protégée, on va dire.
Ah oui,
Plutôt bien
non.
protégée. Et puis bah, finalement, maintenant, elle va finir pas dans l'indifférence générale parce qu'ils ont quand même encore un match à faire, mais c'est dommage parce que je pense que ça n'aura pas le même impact quand même.
Ouais, non, là, qu'est-ce que tu viens de pas de me dire là, là? Effectivement, c'est
Pas
merdique,
cool, hein?
c'est merdique. Ok, d'accord, bon, bah, je suis triste maintenant.
Ouais, j'en ai d'autres, hein, des comme ça à t'annoncer, tu vois.
Au menu, on va faire pleurer
Au menu
IRM.
ce soir. Non, mais bon. Allez, on va continuer avec notre rayon de soleil,
Ah.
puisque nous avions cette semaine le season finale, donc le dernier épisode des Fashion Picks. Attention, hein, pas des Fashion Files ou quel que soit le nom maintenant, mais des Fashion Picks. Et nous avions cette semaine Fandango, face caméra, seul, le regard dans le vide, qui discute bah, de ce qui s'est passé la semaine dernière. Il disait qu'il avait été enlevé par des aliens, hein, par des aliens, des extraterrestres, qu'il l'avait questionné profondément, avec encore une fois toujours les sous-entendus à l'anal probe de South
Oui, jusqu'à les
Park.
gens ont compris.
Tout le monde a compris, c'est bon. Et donc, voilà, ils l'ont questionné très profondément. Tyler Breeze qui arrive encore une fois déguisé en femme, et donc qui vient, qui lui dit que ils ont plein de mystères à résoudre. Mais toujours très drôle cette façon de troller le public. Mais ils ont encore tellement de mystères à résoudre. Mais est-ce que le public ne va pas penser qu'on tire le show en longueur juste pour le tirer en longueur? Tout ce qui
Ouais.
est très drôle parce que c'est très probablement ce qu'ils font. Mais ils s'en amusent et donc du coup ça nous amuse aussi. Donc voilà, encore plein de blagues un peu dans tous les sens. Chaque phrase est à décortiquer. The Ascension qui arrive, hein, toujours ceux qui ont un rôle maintenant récurrent dans cette émission, qui reviennent avec la tarte qu'ils avaient piquée la semaine dernière sur le bureau de Fandango et Tyler Breeze, et qui disent que la tarte était dégueu, machin. Il la remonte, et puis alors Fandango, qui en effet avec une pince à épiler commence à dépiauter la tarte, et puis alors il trouve des cheveux dedans, il trouve un band-aid, un petit pansement pour les enfants, il trouve du gluten. Donc évidemment Victor qui est un gluten free, alors là il pète un câble, il dit non, c'est pas possible, moi je mange pas de gluten, tout. Et donc bon, The Ascension disparaissent et il trouve une dernière chose, il trouve un petit papier avec marqué to be, donc to comme 2 le chiffre et be la lettre B, donc 2B. Fandango qui goûte d'ailleurs, hein, il lèche la petite note et puis il dit que ah, ça a un goût de danger, j'ai peur, ça a un goût de peur pour toute la division tag team dans son ensemble. Et donc voilà, on finit sur ce cliffhanger insoutenable. Et avec un petit écran, Fashion Pics reviennent dans 2 mois ou je sais plus, un truc comme ça.
25 ans au départ.
Non, dans 25 ans, référence à la série Fashion Pics qui a eu, je crois, 25 ans à peu près entre la saison 3 et la nouvelle saison qui est sortie cette année. Et le 25 ans disparaît au profit d'un...
Deux semaines.
Et là, moi personnellement, ça m'a fait chaud au cœur. T'avais la pop du public quand les 2 semaines sont apparues, genre... Ouf, quoi, tu vois, ah, putain, ouf, c'est bon, ils sont là dans 2 semaines. Donc, tout va bien. Alors, bon, on va pas trop en parler encore de ce segment, c'était toujours une fois très drôle, mais est-ce que tu as, c'est la séquence, supposition, théorie de la semaine, est-ce que tu as une idée de ce que ça pourrait être, ce 2B?
Franchement, non, j'ai vite fait chercher, mais j'ai pas trop envie de creuser, je vais essayer de voir la surprise, parce que 2B, tu commences à regarder dans le roster de NXT, qui sait à quoi ça pourrait correspondre. Visiblement, ils repartent sur cette division tag team, hein. On pensait qu'ils étaient un peu mis de côté, cette histoire d'agresseurs, etc. Visiblement, non, ils sont toujours là et ils sont au moins deux. Ouais. Donc, non, j'ai pas de théorie, parce que j'ai pas cherché en cours sur une, mais...
J'ai regardé un petit peu sur Internet, j'ai trouvé un truc marrant.
Vas-y.
J'aime bien les théories un peu farfelues comme ça, mais c'est que en fait le prochain pay-per-view, bah c'est SummerSlam, c'est dimanche et c'est à Brooklyn. Et il y a eu une tag team assez célèbre d'il y a quelques années qui est de Brooklyn et qui d'ailleurs son theme song commence par 2 fois la lettre B, hein, puisque c'est Brooklyn, Brooklyn. Et c'est les Crime Time Players, enfin c'est les Crime Time Players, c'est les Crime Time.
Non.
C'est JTG et Chad Gaspard.
Ah.
Et du coup, voilà, c'est ce que j'avais trouvé sur Internet. Je trouvais que c'était assez drôle.
Oui.
Mais bon, écoute, je sais pas ce qu'ils font en ce moment, s'ils existent toujours ces deux-là. Mais voilà, si ce serait drôle que dimanche on entende le theme song. À mon avis, il y aurait une belle pop, je pense, pour le petit Brooklyn, Brooklyn.
Ouais, ça peut être le temps le temps d'un soir, oui, pourquoi pas, effectivement. Ça pourrait être sympa. Ouais. Ça parlerait pas forcément à grand monde, je pense, mais.
Ah, ils ont eu une petite ils étaient assez populaires quand même, mais bon, oui, c'était pas une tag team de légende, mais je pense que ça peut faire une bonne un bon petit coup d'un soir.
C'est marrant parce qu'ils avaient l'air assez plus vraiment copains les deux anciens partenaires.
C'est pareil, oui, c'était.
Ça a clashé sur Twitter.
Ça a clashé sur. Ah bah alors peut-être pas. Alors si.
Mais bon, tu sais, hein, dès qu'il y a histoire d'argent, ils redeviennent copains facilement le temps d'un soir. Giscale, juste avant qu'on termine, est-ce que ça t'intéresserait des petites anecdotes sur Tyler Breeze?
Ah bah oui, ça m'intéresse.
Tu sais que d'habitude j'ai des anecdotes sur le Baron, ce soir je préfère pas trop parler
du
Baron. Donc je vais parler d'un de mes autres chouchous, c'est Tyler Breeze. Alors, savais-tu que le personnage Tyler Breeze est né grâce, donc avec Tyler Breeze, mais évidemment, mais aussi à Xavier Woods et l'inévitable Dusty Rhodes? À l'époque, il avait un autre perso générique, Tyler Breeze. Ils en avaient tous, hein, quand tu commences, voilà, t'as rarement un perso bien, bien ficelé. Puis ça fonctionnait pas, toi. Au début, à l'école, là, ils s'entraînent, hein, ils sont devant leur caméra, là, au center, et puis ils essayent, puis ils trouvent plus ou moins facilement. Puis il était un peu sur le point de se faire virer, Tyler Breeze, parce que ça fonctionnait pas. Et puis Xavier Woods, puis ils avaient l'air assez copains, lui dit, quoi, non mais arrête, rassemble toutes tes idées là, on va ramène des accessoires dans ma chambre, on va faire des heures sub quoi à minuit, une fois que les caméras, enfin toi que le matos est libre, on va faire des vidéos promo, puis on va réussir à trouver, on va le trouver ton perso. Alors ils en ont trouvé, donc ils trouvent comme ça 3 persos, donc il fait les promos, etc., avec les déguisements, et puis il y avait il les envoie hein, les vidéos notamment à tout le staff et notamment à Dusty Rhodes qui voit les vidéos et il dit tiens Tyler Breeze hein, le perso Tyler Breeze hein, à ce moment-là il a du potentiel donc ils vont bosser dessus. C'est comme ça un petit peu que le perso est né, c'est parce que Xavier Woods sympa lui a dit non mec on abandonne pas tu vas le trouver ton perso et Dusty Rhodes a plutôt bien aimé. Et une autre anecdote sur la Fashion Police.
Ah.
Comment est-elle née? Tu le sais ça? D'où vient
pas du tout.
Et ben non, Fandango, il avait le genou pété à l'époque. Il avait été blessé. Je ne sais pas si on se souvient forcément de ça, mais. Et les deux, donc, ils tournaient un petit peu en rond. Tyler Breeze, il n'avait pas un programme de dingue hein, quand il est arrivé au Main Roster.
Ah non, non.
Il dit. Tyler Breeze, qui du coup, cette fois-ci, toi, a un rôle un petit peu inverse, il a pris un petit peu d'assurance. Il dit à Fandango, écoute, plutôt que de rester là à rien faire, à broyer du noir, on va tester des trucs. Et sur le site www.com, il y a plein de petites vidéos, des petites séries, des trucs qu'on connaît pas, qu'on regarde pas. Ils essayent pas mal de choses en fait. Et du coup, il n'y a pas vraiment de contrôle, toi. Ils essayent, enfin, comment. Vince, il regarde pas ce qu'il y a sur le site internet, quoi. Puis il y a un des scénaristes qui s'est coquiné avec les deux là, puis ils ont commencé à se poser, à réfléchir un petit peu, et puis c'est là qu'est née notamment l'idée de la Fashion Police. Tyler Breeze, il a kiffé direct, ils ont fait justement des petites séquences comme ça sur le site, et les officiels ont vu, ont fini par voir que ça marchait pas mal, hein, je sais pas, les stats du site ont dû augmenter, j'en sais rien, et ils se sont dit voilà, on va essayer de faire ça à SmackDown. Donc c'est comme ça qu'ils ont commencé, et là, John Cena et Nikki étaient fans justement de ces petites séquences, et ils ont réclamé à faire justement, tu te souviens, il y avait une petite rivalité qui concernait John Cena et Nikki Bella avec la Fashion Police, et ils se sont dit bah tiens, on va les aider un petit peu, et puis bah c'est comme ça un petit peu qu'ils se retrouvaient un petit peu au haut de l'affiche, si je puis dire, de la Fashion Police. Donc voilà, c'était un petit peu les deux anecdotes sur la Fashion Police et Tyler Breeze.
Ok, bah écoute, j'espère que nos auditeurs auront apprécié. Moi, en tout cas, c'est vrai que j'aime bien savoir un petit peu d'où viennent les gimmicks, les histoires, les équipes comme ça. Donc, c'est marrant de voir. Mais ça m'étonne pas que ce que tu me dis que oui, que Vin se suive pas trop le site. Donc, le site internet. De toute façon, c'est souvent comme ça les success stories un peu sympas. C'est pas des concours de circonstances, mais en tout cas, c'est souvent des mecs qui veulent pas lâcher, qui y croient et qui prennent vraiment tous les petits bouts qu'on leur donne et qui en font, qui les transforment.
Bien
Donc, tu vois,
sûr.
ça m'étonne pas qu'un mec comme Xavier Woods soit un peu à l'origine du succès aussi de Tyler Breeze, parce que bon, bah lui, il est dans une faction qui quand même partait de très 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 loin et qui se retrouve
Exactement.
être une des plus over de l'histoire récente de la WWE. Donc
Et voilà.
c'est pas pour rien
C'est
que
une
des
bonne
personnalités comme
un
ça.
autre exemple de c'est pas parce que on se voit des mecs qui sont au fond du trou que ils ont encore des cartes à jouer, toi, en fait. C'est pas parce que on
Exactement.
te fait jobber toutes les semaines que tu peux pas te sortir de ça. Donc et
Je suis bien
ça
d'accord.
fonctionne aussi dans la vraie vie, les gars et les filles.
Et oui. Allez, on va continuer et on va continuer avec le gros morceau de la soirée puisque c'était le main event. Et alors, ne demandez pas à Tom Phillips, hein, si vous voulez pas le froisser, quelle était l'importance de ce main event dans l'histoire de SmackDown, hein, puisque c'était tout simplement le plus gros main event de l'histoire de SmackDown, probablement le match le plus important de la brand bleue depuis sa création, puisque ce soir nous avions le champion Jinder Mahal contre The Franchise John Cena. Oui, gros gros main event, hein. JBL et Tom Phillips qui ont rivalisé, hein, de superlatifs pendant toute l'émission pour nous hyper pour ce match. Enfin, de toute façon, moi, j'en pouvais plus, hein, mais bon. Donc ce match, il arrive, et donc bon. Jinder qui fait son entrée, Cena qui rentre. Alors, petit clin d'œil pour ceux qui n'auront pas vu pendant le broadcast, j'ai trouvé ça très sympa. Il y avait un fan qui a près du Titantron, dans les gradins, qui avait une petite pancarte avec une cible, donc un bullseye avec marqué John Cena t-shirt target, t-shirt serviette target, hein, c'est John Cena towel target. Et parce que vous savez, John Cena, il a toujours sa petite serviette. Simi, machin, qui sort à chaque fois quand il fait son entrée. Et donc John Cena, drôle, qui ne loupe jamais une occasion d'interagir avec son public, il parle à la caméra, il fait son petit truc, et puis là, il roule en boule sa serviette, il la balance en plein sur la petite affiche du mec, qui j'espère qu'il aura pu la ramasser après, parce qu'il a pas réussi à la ramasser.
Ouais, je crois qu'elle est retombée
Bref.
dans l'allée
Il est
sur la
retombé dans la
rampe.
fosse devant. Le mec, il fait une affiche exprès pour ça et il attrape pas la putain de serviette, quoi. Bon, bref, c'était probablement le seul truc un peu fun de ce match,
Oui.
puisque bon, on va pas vous la faire longue. C'était un match très très plat. John Cena n'a rien pu faire pour sauver ça. Hein. On a sur le début de match, c'est plutôt une bataille de puissants. Hein. Ils nous font le jeu de force. C'est un truc un peu old school qu'on voyait plus trop. Ça me rappelle mes premiers WrestleMania, où c'est vrai que t'as deux colosses qui essayent le test de force. Là. Ils se prennent les mains, les deux, l'une au-dessus, et puis ils essayent de faire plier l'autre. C'est un truc qui était très populaire pour commencer les matchs avant. Les Singh Brothers qui essayent d'intervenir, comme d'hab. Jinder Mahal qui fait sa partie de domination très 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 molle, j'ai trouvé. Et puis bah on arrive au finish où Eh ben, Jinder Mahal a quand même le luxe de se dégager d'un attitude adjustment, s'il vous
Oui,
plaît.
monsieur.
Oui, monsieur, Jinder Mahal qui kick out de l'attitude adjustment, Cena qui est sous le choc.
Alors, c'est un 2,99. Hein. Oui.
Ouais,
C'est un magnifique nearfall, quand même.
Un bon nearfall, il faut le reconnaître, il faut lui mettre ça à son crédit, à Jinder, et du coup, Cena qui ne comprend pas et qui tente, il dit au grand moyen, au grand mot, les grands remèdes, il veut placer son Avalanche Attitude Adjustment, donc c'est celui de la seconde de.
C'est son vrai finisher hein, maintenant.
Ouais, c'est son vrai finisher, parce que maintenant le AA est simple, personne ne succombe à celui-ci. Et donc, du coup. Et ben là, qu'est-ce qui se passe? Attitude adjustment de la deuxième corde, le tombé, 1, 2, non! Baron Corbin qui arrive de manière complètement incompréhensible, qui arrive pour casser le tombé. On précise que ce n'est pas un match pour le titre, hein, donc ce qui aurait été encore plus con, parce que du coup il aurait eu un match pour le titre à SummerSlam. Donc Baron Corbin qui arrive, disqualification. Donc il avait manifestement décidé de se venger un petit peu hein, de John Cena hein, qui l'avait tourné en ridicule la semaine dernière. Donc bah en le privant de la victoire tout simplement. Le Baron Corbin qu'on aime et qu'on connaît hein, qui n'en a rien à foutre de rien et encore moins de notre spectacle à nous et qui vient donc gâcher la fête comme il sait faire. Jusque là écoute rien d'anormal.
Non.
Et donc bah il fout
jusqu'ici tout va bien.
Tout va bien, grand coup de mallette dans la tronche de John Cena, il le balance hors du ring, voilà. Donc Baron Corbin est très content, il s'en va, et il est au bord de nous faire une Carmella quand même le garçon là, parce que on a le champion qui est KO, il vient de se prendre un attitude adjustment de la deuxième corde, le truc que même les top stars du monde entier ne se relèvent pas. Qu'est-ce qui se passe? T'as la mallette, Cena est KO, Mahal est KO, qu'est-ce qui se passe? Et là, illumination, épiphanie, Baron Corbin se retourne, et le public qui s'enflamme, va-t-on avoir le droit à un cash-in ce soir, à 3 jours de SummerSlam? Oui, il donne sa mallette à l'arbitre, qui s'empresse d'aller voir le ring announcer, qui déclare que ce match est pour le titre, et que c'est maintenant tout de suite l'arbitre qui essaye de relever Jinder Mahal. Et alors pendant ce temps-là, nous avons un actor studio de Baron Corbin fantastique, qui ne cesse de regarder dans le rétroviseur. Alors là, c'est aussi le problème des caméramans qui auraient peut-être pas dû le filmer à ce moment-là. Mais alors, il ne fait que regarder derrière lui pour voir. Attends, est-ce que John Cena est prêt? Est-ce que John Cena est prêt? C'est une catastrophe. On voit le truc arriver à 2 milliards de kilomètres à peu près. La cloche sonne et Corbin se retourne immédiatement vers John Cena. Voilà, c'est comme ça. Hein. Je vous la fais en enlevant le kayfabe hein, parce que c'était une catastrophe dans l'exécution. Donc il se retourne immédiatement vers John Cena qui n'avait encore rien fait et qui était sur le bord du ring. Il met une droite à John Cena. Alors là, revoyez le gif parce que le selling de John Cena est exceptionnel. Il tombe comme si il s'était pris une enclume sur la tête. C'est très très drôle. Il tombe complètement. Donc c'est assez marrant.
On a bien rigolé hier soir.
Ouais. Et donc Baron Corbin, qui avait senti le coup venir hein, évidemment. Hein. Et donc voilà, et il se retourne. Et là, c'est Jinder Mahal qui, pris d'un second souffle, eh bien arrive, lui attrape l'entrejambe, le retourne au sol, petit paquet, jambes sous les cordes, s'il vous plaît. 1, 2, 3, cash-in raté de Baron Corbin, victoire de Jinder Mahal qui conserve son titre. La mallette est perdue, le t-shirt. De Baron Corbin aussi est perdu puisqu'il nous montre sa plaquette de chocolat fondue. Et donc il est en transe complètement, il pète un câble, il comprend pas mais comment est-ce que j'ai pu être aussi con. Bah oui, on se le demande. Et donc là il retourne la table des commentateurs, il y a son petit bourrelet qui frétille pendant qu'il s'énerve et tout. Superbe image, Vince a dû apprécier. Et pendant ce temps-là, John Cena, lui, est hilar auprès d'une fan qui, elle, l'est moins. Alors là, on a un plan serré sur John Cena près d'une fan qui lui met un doigt d'honneur, mais vraiment à 2 cm du visage. John Cena qui, d'ailleurs, le lendemain s'en est servi. Il l'a tweeté, cette photo.
Bien sûr, mais ouais.
J'adore ça. Voilà, la mallette de Baron Corbin n'est plus, donc j'espère qu'il a récupéré son iPad quand même.
J'y ai pensé en plus.
Parce que c'est terminé. Qu'est-ce que t'as pensé de tout ça?
Alors évidemment, moi j'étais hors de moi dans la à la fois dans le enfin dans la finalité, voilà, ça m'emmerde vraiment que le baron ait loupé son cachine. Après, tous les cachines ne sont plus voués à être victorieux et une garantie absolue de voir un nouveau champion, ce que je trouve une bonne chose. C'est d'ailleurs John Cena qui avait fait les frais de ce premier cachin. Au passage, quand il y a John Cena dans les parages, de toute façon,
Ça sent pas bon.
le cachin y foire systématiquement, puisqu'il est le premier à l'avoir loupé. Damien
Eh
Sandow,
oui.
qui est le deuxième, avait caché
Tu
sur John Cena.
fais bien de le rappeler, en
Voilà,
effet.
et voilà, il y
Amiral
a.
qui nous l'a dit dans le chat, mais on avait prévu d'en parler. John Cena était le premier à rater son cash-in sur CM Punk. C'était en 2012, lors du Raw 1000. Je ne sais pas si on s'en souvient, mais il avait caché et Big Show était venu provoquer la disqualification. Et l'année suivante, c'est Damien Sandow qui avait essayé de cacher sur John Cena et qui avait raté. J'ai presque envie de dire qu'à l'époque, ça avait été pire parce que John Cena était blessé et Damien Sandow avait eu un vrai match contre lui.
Ouais.
Et il avait perdu.
Exactement. Oui. Non, mais c'est ça. Après, donc voilà, c'est toujours pareil. Une fois que la colère a passé, alors par contre, oui, juste l'exécution est pas très bonne. Parce que c'est vrai que enfin, c'est assez idiot. Enfin, le fait qu'ils repartent, qu'ils reviennent. Après, je sais pas trop quoi en penser, parce que finalement, lui. Baron Corbin, enfin, il a cette mallette. On a un peu l'impression qu'il sait pas à quoi ça sert déjà, parce que un peu comme Carmella,
Ça
toi.
va des coups sur la tronche des
C'est
gens.
ça. À part, il met des coups sur la tronche des gens. Donc, pourquoi pas jouer la partition du mec qui est tellement omnibulé par le fait de s'en prendre à John Cena que toi, il se rend pas compte sur le moment de l'occasion dorée qui s'offre à lui. Bon, après, il met vraiment beaucoup de temps à revenir. Après, tu l'as bien dit aussi, toute la séquence où il regarde sans arrêt derrière lui pour voir où est John
Là.
Cena,
Ça cramait à 2000. Ah putain, je me
ça
souviens.
c'était vraiment mauvais. Ça, pour moi, c'est
C'est
vraiment
une erreur, grosse erreur, ça.
ouais, c'était vraiment presque la plus grosse erreur en termes d'exécution du cash-in. Après, autre erreur aussi, mais je sais pas si c'était volontaire ou pas, j'en sais rien, mais c'est les pieds sous les cordes
Ah
de
ouais,
Jinder
c'est
Mahal.
flagrant, hein.
C'est flagrant. Bon, Jinder Mahal est un heel, donc les heels s'en sortent parfois mieux que les face, enfin, toi, pour. Enfin, les face. Mais c'était involontaire, toi, donc.
Oui, c'est involontaire, donc ça raconte rien, c'est involontaire, donc
Vont-ils
bon.
l'utiliser un peu plus tard? Je
C'est
suis
pas,
pas
c'est un
certain.
peu c'est ce qui se dit un peu, mais bon, j'y crois pas, hein.
J'y crois pas non plus. Voilà, maintenant. Ça, c'est le côté un peu mauvais de tout ça. Maintenant, qu'est-ce qui attend au programme du Baron? C'est quand même une belle affiche face à John Cena à SummerSlam.
Mais oui, il faut pas l'oublier.
Alors, il y a deux scénarios, hein. Il y a deux scénarios. Il bat John Cena et tout est oublié. Tout est oublié. Tout est oublié. Il y avait un plan. Il fallait apporter de la hit et de l'intérêt à ce
Ah là, il y
match-là.
en a, là, hein.
Là, il y en
Maintenant,
a.
je peux dire que, ouais.
Maintenant, il y en a peut-être même trop. On s'attend presque à ce que ça soit. C'est presque évident. Enfin, pas évident, mais on s'attend trop à ce qu'il ait sa revanche sur John Cena. Donc, je ne sais pas. Par contre, s'il perd face à Big John, là, ça va être très très compliqué, quoi. Voilà, toi, je sais pas, qu'est-ce que tu penses de cette
Ouais,
discussion?
je reprends sur la fin. Ça, je suis d'accord que personnellement, s'il perd clean contre John Cena, ça va être très compliqué de le reprendre au sérieux parce que là, il prend un gros coup sur la caboche et il passe vraiment pour un clown devant tout le monde parce que voilà, il a perdu sa mallette comme une andouille et puis dans la foulée, il perd à SummerSlam devant 20 000 personnes et je sais pas combien devant la télé et tout. Là, c'est terrible. Par contre, je le vois pas forcément gagner le match dans le sens où il peut. Enfin, moi, je verrais bien une victoire par disqualification de John Cena parce qu'à
Oui.
mon avis, Baron Corbin va être. Tu l'as dit. Maintenant, il y a presque trop de hits parce que genre là,
Il n'en pouvait plus là.
si t'es cohérent avec le personnage de Baron Corbin, il va littéralement péter un câble et à la limite, il l'a déjà fait par le passé contre Nakamura, contre Ziggler, contre eux. Il n'hésite pas à se faire disqualifier si ça veut dire qu'il peut en foutre plein la tronche
C'est ça.
de son adversaire. Donc moi, je verrais bien un match, mais vraiment ultra violent, où Baron Corbin, au bout d'un moment, il pète un câble et il défonce John Cena, mais vraiment dans les grandes largeurs, limite avec un peu de sang, j'en sais rien. Enfin, un truc qui marque, un truc vraiment visuel qui marque pour qu'il ait un SummerSlam moment, entre guillemets.
Exactement.
Parce que ce serait bien pour lui. Je vois pas. En fait, je trouverais ça presque mieux pour son personnage qui gagne comme ça que une victoire clean contre John Cena. Je sais pas trop. Je sais pas. Je trouve pas que ça colle vraiment.
Non, effectivement, quand je parlais de victoire, effectivement, tu as raison. C'est toujours et c'est là où c'est toujours important parce que notamment pour les pronos, etc. Mais effectivement, oui. Il faut qu'il y ait une image de lui.
Image dominante de lui, mais voilà. Vraiment dominante, et voilà qu'il se soit vengé et que ça justifie le fait que, parce que s'il gagne clean, c'est pas cohérent après pour le personnage de John Cena de venir dire hop rematch, tu m'as volé ou un truc comme ça, c'est pas son genre. Donc du coup, si c'est pour que ça continue derrière, je vois bien en effet un démontage dans les grandes largeurs. Et une triche sur filouterie ou un truc comme ça qui lui permettrait de gagner dans le dos de l'arbitre, ça colle pas non plus à Baron Corbin, je trouve. Et puis en plus, je pense qu'on aura déjà largement de quoi faire sur les filouteries dans le AJ Styles Kevin Owens, donc ce serait un peu doublon. Donc écoute, moi je vois plus ça. Déjà, je vous donne un peu mon prono, mais bon. Et après, sur le cash-in, bon, je partage ton avis, tu as déjà tout dit. Sur la finalité en tant que telle, ça me dérange pas. Je trouve que c'est plutôt même une bonne chose qu'il ait raté. Parce que voilà, il faut mettre dans la tête des gens, et je trouve que celle-là a été vraiment très marquante, de dire que c'est pas un cheat code la mallette, c'est pas automatique, on ne gagne pas toujours la ceinture avec ça. Les derniers cash-in manqués, c'était quand même c'était en 2012, c'était il y a longtemps, c'était John Cena, et puis c'était il y avait Damian Sandow, mais je trouvais que c'était pas mal de le remettre un peu au goût du jour, ce fail. Mmh. Donc ça, c'était bien, mais c'est l'exécution, quoi. C'est l'exécution. Corbin, je mets un gros carton rouge parce qu'il gâche son segment avec ses coups d'œil derrière. Tu sais qu'il va se passer un truc, c'est obligé. Il gâche toute la surprise, et puis alors après. Le fait qu'il perde sur un roll-up un peu moisi. Enfin, je sais pas, j'ai pas aimé la séquence. J'aime bien le fait qu'il ait raté. J'ai pas aimé la façon dont ça s'est passé parce que je trouve qu'il passe vraiment, vraiment, vraiment pour un gros con, quoi.
Il aurait pu. En fait, le fait qu'il le regarde au début, je me disais, tiens, il le surveille du coin de l'œil.
Ouais,
tu vois.
Mais en fait. Il surveille rien. Il vient de le mettre KO. Et en fait, il le surveille pas. On sait très bien que c'est parce qu'il se dit, oh putain, dès que ça sonne, il faut que je me retourne. Dès que ça sonne, il faut que je me retourne.
Et c'est exactement ce qu'il fait.
Mais oui, et c'est exactement ce qu'il fait. Et dès que ça sonne, il se retourne. Ça n'a aucun intérêt. Donc la séquence est du coup gâche vraiment un petit peu ce qu'il voulait faire avec. Donc ouais, je suis pas du tout content de l'exécution. Et par contre, voilà, après le cash-in manqué, j'ai pas de problème avec ça. Mais bon, encore une fois, un gros moment qu'ils ont décidé de pas faire à SummerSlam. Pourquoi.
Parce que ça va amener ça rajoute énormément de hits pour le match de John Cena. Si ça prend le chemin de ce que tu as raconté, ce que je trouve est un des très bons scénarios possibles, il va être, je pense, gagnant. C'est une autre façon de gagner, quoi.
Non, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que il a dû pisser dans les céréales de quelqu'un et tout pour perdre sa mallette. Je pense pas, hein, c'est pas.
Non. Peut-être.
Bon, en tout cas, là, ça veut rien dire.
Nous, on essaie de juger sur ce qu'on voit là à l'écran et comment dire. Et en plus, ils peuvent même s'appuyer sur cette histoire de pieds là, de jambes dans les cordes. Pour revenir à l'assaut de.
S'ils veulent donner un match title shot, titre à Baron Corbin, ils peuvent faire ça.
J'ai éclaté John Cena et en plus j'ai perdu.
J'ai perdu sur une triche. Il pourrait faire ça.
Ça m'a coûté ma mallette.
On va dire que ça leur laisse une porte de sortie. Je pense qu'à mon avis vraiment c'est pas ce qui est prévu, mais bon, ça leur laisse une pirouette parce que ils restent quand même attentifs à ce qui se passe un peu. Et comme sur Internet, ça a été beaucoup relevé, ça, peut-être qu'ils peuvent s'en servir.
C'est rare que ces choses-là soient pas réutilisées comme aujourd'hui.
Ouais. Donc du coup, ça peut être un heureux hasard. Ça peut rajouter un petit truc pour après SummerSlam et tout. Mmh. Bon. Eh ben, en tout cas, c'est sur ce main event, ce plus gros main event de l'histoire de SmackDown, qu'on termine ce show. On a un petit peu traîné sur la fin, mais bon, on va enchaîner avec le mot de la fin, IRM. Ton top, ton flop, ta note.
Oui. Alors, pardon. Mon top, c'était le match New Day versus Uso que j'ai adoré. C'était vraiment un match hyper dynamique, etc. Malgré le fait que voilà, il nous l'offre. Je sais pas rendu match en lui-même, hein, pas sa place. Voilà. Et mon flop, oh, je vais te le laisser. Et je vais plutôt prendre la défaite de Becky Lynch, quoi. Voilà, Becky
Ouais,
Lynch.
écoute, c'est un flop honorable.
Et ma note, pardon, pour terminer, c'était pas très jojo quand même, je m'en rends compte. Je vais mettre un 2,25. 2,25, parce que ça m'a donné envie de regarder certains matchs malgré tout. Pas beaucoup en fait, mais non, mais je m'en rends compte. Mais ouais, 2,25, c'est encore un peu généreux, je pense, mais.
Ouais, moi je vais mettre deux, moi. Mais
Ouais.
ouais, comme tu dis, c'était un. En fait, c'est dommage parce qu'ils ont essayé de faire plein de choses dans ce Go Home Show,
Trop
mais
peut-être, je sais pas. Hein.
tout semblait hors timing, tout
Oui,
semblait
c'est
mauvais.
ça.
Tu comprenais pas trop ce que tu regardais. Ça m'a pas donné envie de voir beaucoup. Enfin, en tout cas, ça m'a pas donné plus envie de voir beaucoup de matchs personnellement, à part parce que Nakamura Jinder, ça m'a rien fait. Les filles, ça m'a rien fait. Ouais, Rusev Orton, c'était correct. Et puis c'est
Oui,
vrai
bah
que.
Rousseff, moi ça m'a donné envie de voir Rousseff Orton et John Cena Baron quand même.
John Cena, Baron, c'est vrai que maintenant j'aimerais bien voir la réaction du Baron, c'est sûr. Donc de ce côté-là, ok. Mais bon, voilà, il y a eu trop d'erreurs pour moi de booking dans cette émission. Et
Ok.
voilà, l'intro avec les Indiens, les filles, les non, enfin vraiment là, c'était pas possible. Donc je vais mettre un 2. Et puis bah mon flop, bon bah on en a parlé. Hein, je vais mettre un carton rouge à Baron Corbin
Aïe.
qui a gâché son propre moment en vendant la mèche et d'ailleurs en faisant une exécution très 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 moyenne. Et mon top, eh bien mon top, tu vois, je vais le donner à. J'avais pas trop de top cette semaine. Les Fashion Picks c'était un petit peu en dessous.
KO.
Alors du coup, je vais le donner à Kevin Owens, en
Voilà.
effet, que j'ai trouvé très bon dans son segment rien que pour lui. Surtout dans un match à stipu où ça va demander plein d'innovation et plein de science du ring un peu, je pense, pour sortir un bon match. Je pense qu'il va briller.
Ouais. C'est rassurant de le savoir
De le
présent.
savoir dans ce match-là. Ouais, je suis d'accord. Donc du coup, voilà, Kevin Owens. Et puis, bah, ma note, j'ai déjà donné deux. Donc du coup, avant de faire les crédits, bah, on va récapituler quand même la carte de SummerSlam pour ce dimanche, puisque c'est ce dimanche, c'est un pay-per-view. Interbrand, c'est le premier depuis bien longtemps. Et c'est donc ce 20 août au Barclays Center de Brooklyn. Vous aurez l'occasion de voir juste avant un NXT TakeOver Brooklyn numéro 3, il me semble, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça.
Oui.
Mais donc, du coup, il y aura SummerSlam avec pas moins de 12 matchs
Oh
sur la
putain.
carte. 12, c'est un WrestleMania. Hein.
C'est un
Ils ont
record, madame,
prévu.
un record.
Ils ont prévu, je crois, un pré-show de 2 heures et un show de 4 heures, si je dis pas de conneries. Donc du coup, c'est un WrestleMania. On aura en pré-show bah, les Cruiserweight, Akira Tozawa contre Neville, le roi des Cruiserweight qui n'est plus. On aura en pré-show également, à mon grand regret. Mais bon, gageons qui les en profitent. Le New Day, les champions par équipe de SmackDown contre les Usos. Et ensuite, c'est parti pour une carte qui, ma foi, on va quand même bien se marrer. C'est quand même un beau SummerSlam.
C'est une
On a
belle
du
carte.
Cesaro et Sheamus contre le Mini Shield, Dean Ambrose et Seth Rollins qui sont de retour pour le titre par équipe dans un match où il peut se passer tout et n'importe quoi. On aura John Cena contre Baron Corbin. On aura Finn Balor contre Bray Wyatt. Finn Balor, le Demon King, hein, il s'est annoncé, le démon sera à SummerSlam. On aura, alors bon, pour ceux que ça amuse, moi je pense que je me marrerais. Big Show contre Big Cass avec Enzo Amore dans une shark cage au-dessus du ring
Ah bon? Ah putain.
à la Chris Jericho. Donc Big Show contre
Ces
Big Cass dans
conneries.
la Big Apple, comme ils l'ont dit. Randy Orton contre Rusev, AJ Styles contre Kevin Owens pour le titre US avec Shane McMahon en special guest. Referee, on aura Jinder Mahal contre Shinsuke Nakamura pour le titre mondial. Pour les femmes, on aura quand même Alexa Bliss contre Sasha Banks pour les, du côté de Raw. Bon, alors côté SmackDown, on s'excuse, ce sera Naomi contre Natalia.
Désolé.
Et enfin, le main event de l'apocalypse, Brock Lesnar contre Roman Reigns, contre Samoa Joe, contre Braun Strowman, avec comme stipulation que si Brock Lesnar perd, apparemment, il quitte la WWE. Donc voilà qui s'annonce, ma foi, plutôt excitant.
C'est le gavage, hein, c'est un putain de burger.
Gavage,
hein.
Préparez-vous, commandez un bon truc à bouffer, des boissons et tout, et puis bah, préparez-vous pour une grosse soirée. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour analyser NXT, pour analyser SummerSlam. Vous nous retrouverez peut-être d'ici le pay-per-view pour des pronostics, on sait pas, on va voir, qui sait. Mm-hmm. Mais pour ça, pour savoir tout ça, il faut vous abonner à la chaîne YouTube, les cahiers du catch, Catch Up CDC, c'est ça, je dis pas de
YouTube,
bêtises.
Il faut taper Catch Up ou les cahiers du catch.
Les cahiers du catch, vous pouvez nous retrouver évidemment sur PodCloud, sur iTunes, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Catch Up CDC, sur Twitter, @CatchUpCDC. Vous pouvez retrouver le gauchomètre de IRM, peut-être, sur le site lescahiersducatch.com.
Alors vous écouterez ce podcast, peut-être qu'il sera encore disponible. Hein, vous allez sur... comment je pourrais faire ça pour passer le lien? Parce que comme ça, les spectateurs, les auditeurs pourraient participer au gauchomètre. Hein. Je vais le mettre en commentaire de la vidéo sur le YouTube.
Très bien. Voilà, ce sera en commentaire de la vidéo. Donc, ce sera ici. Voilà.
T'as toujours rêvé de faire ça, hein.
Ouais, j'ai toujours rêvé de faire ça. Et sinon, vous pouvez, vous connaissez toutes les plateformes où vous pouvez nous retrouver. Donc, merci de nous écouter. Mettez des likes, partagez, commentez. Et puis, on vous souhaite une excellente fin de semaine, un bon SummerSlam à tous. Et IRM, je te dis à très bientôt, du coup.
Salut!
Allez, salut tout le monde!